Donc la phrase qui est traitée, c'est celle du chapitre « Durée de la vie », où le Vénéré Shakyamuni dit « Ainsi, depuis que j'ai réalisé l'éveil, le temps écoulé est extrêmement long et étendu. Ma longévité est d'une infinité incalculable d'éon, et je demeure en permanence sans m'éteindre. » Donc en fait, le cours est traité de Kuon. C'est un concept qu'on a dans le bouddhisme. Le temps infiniment lointain et extrêmement long, enfin long et étendu, c'est Kuon. Ku pour long dans le temps et on pour étendu dans l'espace. Donc en somme, Shakyamuni signifie par là que, alors que les gens ont vu naître en Inde, quitter la famille princière et attendre l'éveil à 30 ans, lui révèle dans le chapitre Juryo que, en réalité, sa vie est infinie dans le temps et dans l'espace. Donc c'est là-dessus que porte le cours. Donc le grand patriarche dit que dans le chapitre Durée de la vie, l'expression Kuon, donc long et étendu, se rapporte à la longévité du vénéré Shakya. Dès lors, si l'on réfléchit au temps et à l'espace à partir de l'expression Kuon, ces notions prennent alors des valeurs infinies, absolues, dépassant le cadre de notre pensée spéculative et de notre évaluation. Donc il commence en disant que, on va en parler, mais vous pourrez rien comprendre. C'est pas un truc qu'on peut aborder. Nous, on est dans le temps et dans l'espace. Or là, on a traité de choses qui ne peuvent pas être abordées avec ces notions de temps et d'espace graduels et mesurables. Alors, en premier lieu, sachant que Emmanuel Kant, bien que de formation catholique, c'est un théologien, faisant la chose, a quand même réussi à dire « J'affirme que la qualité de l'espace et du temps que je prends comme la condition de l'existence des objets ne réside que dans mon mode d'intuition et non dans ces objets eux-mêmes. » Donc Kant, avec honnêteté, dit « Attention, le temps et l'espace, c'est toujours mon sentiment perso, mon intuition grâce à laquelle je vois et perçois les choses, mais probablement ce n'est pas le temps et l'espace en vrai, en soi, pour tout, mais ce n'est que mon sentiment personnel. » Autrement dit, chacun, probablement, chaque forme, chaque dharma, perçoit un temps et un espace qui n'est que celui qui l'engendre perso, sans s'en rendre compte. D'où l'exemple de l'escalier. Le même escalier à l'âge de 6 mois est dangereux, il l'est également à 90 ans, mais il n'est pas à 18. Dans tous les cas de figure, c'est le corps qui induit la dangerosité ou la non-dangerosité de l'escalier. L'escalier, il n'aura pas varié lui par contre. Donc tout est comme ça, c'est le corps toujours qui nous incline à un sentiment d'espace et de temps. Toujours. C'est pour cela que lorsque Shakyamuni dit qu'en réalité il ne s'est jamais éteint, qu'il est en permanence et que sa vie est infinie dans le temps et dans l'espace, forcément, nous, avec nos opinions d'être ordinaires, on a du mal à accrocher le mouvement. Donc il dit, le grand patriarche, les connaissances de notre Terre, des constellations ou encore des galaxies au sein de l'univers, auxquelles est parvenue la science moderne, autorisent, dans une certaine mesure, une véritable cognition fondée sur l'observation et la démonstration expérimentale. Cependant, au-delà, il ne s'agit plus dès lors que de postulats et de spéculations. Par exemple, en astronomie, on parle d'une constatation qui est le phénomène d'expansion de l'univers, et de cette vision d'une expansion de l'univers, on en induit, d'une manière théorique, que l'existence de l'univers, à son tout début, proviendrait du Big Bang. Nous, en tant qu'humains, comme on voit les choses, semble-t-il, s'éloigner, forcément, on va considérer que si elles s'éloignent, c'est qu'elles sont parties d'un point. Or, ce point converge vers un centre qui est celui de notre observation du temps et de l'espace. Et donc, partir de là pour affirmer qu'il y a eu une origine avec une explosion suivie d'une série de choses qui se sont construites dans une expansion, c'est une vue humaine qui sera évidemment remise en cause et qu'il y aura une vue plus fine de l'observation. Donc, lui, il dit, à propos de l'univers, est-il fini ou infini? Il dit, voilà, malgré les progrès scientifiques et la richesse en appareils de calcul et de mesures en tout genre, personne n'est encore capable de le déterminer. Les méthodes scientifiques sont fondées sur des définitions et des extrapolations faites sur le modèle limité de l'accumulation de preuves obtenues une par une. Et chaque nouvelle preuve, chaque nouveau constat, va induire nécessairement une nouvelle théorie qui va englober ce nouveau constat, qui va tenir un certain temps, et qui, théorie qui sera remise en cause dès qu'il y aura un constat qui va remettre en cause la théorie, Donc il y aura une nouvelle théorie pour englober le nouveau constat, et ainsi de suite. Donc l'accumulation des visions de plus en plus fines de la part des gens qui sont dits observateurs amènera sans aucun doute toujours un remaniement de la théorie pour englober les nouveaux constats. Donc il dit, on ne peut pas se baser là-dessus. Donc, il convient dès lors d'adopter une attitude honnête et modeste et de reconnaître sans affectation le caractère infini du temps et de l'espace et de leur existence en tant que vie du monde des phénomènes et en même temps du point de vue de l'éternité, de l'existence du Bouddha. Et lorsqu'il dit que le temps et l'espace, il faut reconnaître leur existence en tant que vie du monde des phénomènes, ça veut bien dire que le temps et l'espace, c'est toujours quelque chose qui relève du phénomène, et non pas que les phénomènes sont dans le temps et dans l'espace. Si vous voulez, le temps et l'espace sont toujours consécutifs à ce qui est perçu par le phénomène. Donc c'est le phénomène, toujours individuellement, qui induit un temps et un espace qui lui est propre. Donc de cela, on ne peut pas se départir, c'est comme ça. Donc, il dit, le bouddhisme, quant à lui, considère que le contenu de la vérité réside dans le fait que l'intégralité du monde des phénomènes repose sur la loi des causes, des conditions, des effets et des rétributions. Donc, la base, le béaba de la logique que le Bouddha développe, c'est que tout phénomène, quel qu'il soit, repose sur cette loi où il y aura la cause, la condition, l'effet et la rétribution. Alors, qu'il y ait la cause, c'est ce qu'on appelle en bouddhisme le karma, c'est-à-dire nyose-in, dans les dix nyose. Qu'il y ait les conditions qui sont non-duelles avec la cause, signifie que la cause et la condition dans laquelle l'effet va apparaître, la cause et la condition sont une seule et même chose, ce n'est pas deux. Donc de cet ensemble cause-condition, toujours apparaissent des phénomènes qu'on appellera des effets, et qu'on traitera en termes de rétribution. Donc toujours il y a cette série cause-condition qui est invisible, et ce qu'on verra nous, c'est l'effet qu'on pourra également considérer comme rétribution. Et donc en tant qu'humain, et tout ce qui est infra-humain également, ce dont tout provient, c'est-à-dire la cause, et la condition n'est pas perceptible. Au moment où l'on constate quelque chose, c'est déjà le passé de notre réalité instantanée. Donc, de ce fait, on ne peut voir, en tant que phénomène, puisque nous sommes tous des phénomènes bien sûr, on ne peut constater que les faits qui s'imposent. Autrement dit, dans le monde humain, la notion même de cause n'existe pas. Il n'y a pas. Il n'y a jamais dans le monde humain de choses qui entraînent ces choses-là, ceci cause cela, même cause même effet, ça n'existe pas. Ce sont des vues humaines qui sont plaquées sur le phénoménal pour essayer de tirer des mesures, de construire des routes, des ponts, des voitures et des villes. Mais la causalité ne peut pas être perçue parce qu'on ne voit jamais que l'effet. Donc le grand patriarche dit « Notre corps nous-mêmes existe en fonction des causes-conditions. » Donc il existe en fonction des causes-conditions, c'est-à-dire que les causes-conditions sont, et de cela naît le corps, à chaque instant, le corps ou les phénomènes. Et donc, on ne voit, nous, dit-il, que, enfin, il dit, nous montrons l'aspect des effets et des rétributions. Donc, tout phénomène provisoire momentané se montre en tant qu'effet. Mais, la cause du dit phénomène ne peut pas être perçue. Elle est insondable. En outre, ce n'est pas une cause. Ce n'est pas qu'une cause qui entraîne un effet. On dit cause pour simplifier les choses. Mais en réalité, c'est une somme de causes multiples, une somme de conditions multiples qui sont invisibles et qui donnent, dans un moment donné, l'apparition de l'effet. Donc, aucun acte humain, aucune chose de l'ordre de l'humain ne peut être appelée cause. Ça n'existe pas. Il n'y a que des effets. Ou si l'on préfère, pour le dire différemment, il est dit, donc, dans le bouddhisme, que le véritable aspect des phénomènes est situé avant le discernement ou la différenciation des phénomènes. C'est-à-dire que, avant que vous preniez conscience de quoi que ce soit, chaud, froid, bleu, rouge, vert, jaune, j'aime pas, le fait de prendre conscience d'eux, c'est déjà le passé de votre aspérial. Toujours, toujours, toujours. Donc on est toujours dans une situation où, du fait des causes et des conditions qu'on ne peut pas voir, ni mesurer, ni prendre en main, l'effet apparaît et s'impose. Et cet effet est instantané. Au moment où vous sentez quelque chose, voyez quelque chose, c'est déjà le passé. Vous êtes fait. Donc ça c'est la base que le Bouddha enseigne. Cette base est indéracinable. C'est comme ça que les choses se produisent. Donc s'il y a une réflexion après sur la causalité, elle doit venir toujours en respectant le fait que tout apparaît en tant que effet. Autrement dit, tous les actes humains, en termes de volonté, décision, vouloir, choix, décision, c'est inutile, ça n'existe pas.
Oui, mais quand on décide de pratiquer,
oui. On va y venir. On va y venir. Et donc, pour l'instant, notons que il n'y a jamais d'acte de personne. Ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit que de considérer qu'il y a des actes. Hein? Tout s'impose. Aucune chose n'est faite en termes de choix. Elle s'impose. Toutes les choses.
Et quand tu dis toi seul,
je
matin et soir, je m'oblige à pratiquer 3 quarts d'heure, c'est pour
une parole. Ah non, non, je m'oblige pas. Moi, je me lève le matin, je pratique. Mais on va venir. Pour l'instant, on parle de la causalité telle que le monde est. Après, on va envisager ça sous l'angle de la pratique du bouddhisme, qui est déjà quelque chose qui est hors du monde usuel, hors des 6 voies, hors du monde où tout s'impose comme effet. Et donc, gardons toujours en mémoire qu'à la base, tout s'impose comme effet. De cela, on ne déroge pas. On va affiner par la suite.
Tout s'impose comme effet.
Oui, c'est ça. Oui, enfin, le contenu de la vérité réside dans le fait que l'intégralité du monde des dharmas repose sur les voies de cause, condition, effet et rétribution. Donc, si vous lisez le 82, page 11, il y aura des précisions. Si vous lisez le 10, page 14, il y aura aussi des précisions. Vous pouvez les rassembler, les éléments. Hein, il dit pas tout toujours au même endroit. Il n'a pas la place de dire tout. Donc, il faut chercher. Aussi, donc, dans le 97, Nichiren dit que la sagesse du Bouddha, c'est réaliser l'effet des dignosés. Donc, s'éveiller au fait que les 10 ainsi sont des effets. Autrement dit, le corps est un effet, l'esprit est un effet, la substance est un effet, et le reste aussi. Donc, l'éveil du Bouddha, c'est percevoir que le corps et l'esprit toujours sont des effets qu'on ne peut pas prendre en main parce que ça apparaît point et ça change tout le temps. Donc il n'y a pas de latitude, il n'y a pas de recul possible vis-à-vis de ça. Cela s'impose point. Comme une démangeaison ou comme une vie de pisser. C'est pas une volonté, ça s'impose, c'est comme ça. Donc il dit que réaliser l'effet des 10 ainsi, donc qui sont l'aspect réel des choses, c'est la substance de la loi. C'est donc Nyorolingekyo. Comme on dit, tous les phénomènes apparaissant comme effets, et donc évidemment provenant de causes mais qui ne sont pas perceptibles, c'est bien entendu qu'il n'y a pas d'effet sans cause, ce qui serait absurde. Mais comme on ne voit que le monde de l'effet, le monde de la cause, n'est pas de notre ressort. Votre vie, vous avez toujours vécu les choses qui s'imposaient, vous avez pu prendre des décisions et faire des choix, mais tout s'est imposé. Toute votre vie s'impose tout le temps. C'est comme ça. Tout le monde cherche à être heureux. À travers la trajectoire de chacune et de chacun, eh bien, on aura fait avec les moyens du bord, parce que ça s'impose, des trucs. On réagit, on essaie de manœuvrer ici, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Donc on est toujours en train d'essayer de réagir, mais tout s'impose, point. On n'est pas maître de la seconde qui vient. On ne la dirige pas. On ne sait pas, ça arrive. Donc, la sagesse du Bouddha, c'est ça. S'éveiller au fait que les dignosés, donc l'aspect réel, sont des effets. Et encore une fois, on pose les bases de la logique que le Bouddha développe. En outre, il est dit, déjà, au niveau du Hinayana, le petit véhicule, qui donc fait une rupture avec les voies extérieures et les autres religions. Il est dit qu'il y a dans le petit véhicule, donc c'est page 4 pour ceux qui savent lire, dans le numéro 97. Dans le petit véhicule, il est dit que le principe commun au sutra du petit véhicule est constitué du triple sceau de la loi. Qu'est-ce que le triple sceau de la loi? C'est que les actes sont instantanés, que les phénomènes sont dénués de soi, et que l'extinction des souffrances est sereine et pure. Mais pendant les deux premiers, les actes sont instantanés, c'est-à-dire que c'est, à chaque instant différent, mais c'est, ça s'impose, et qu'aucun phénomène n'a de soi. C'est qu'aucun phénomène n'est acteur de sa réalité. Tout s'impose. Et Shakyamuni dit aussi, des événements se produisent, mais il n'y a nul acteur. Les événements se produisent, point. Mais il n'y a nulle part quelqu'un qui décide de ce que sont les événements pour lui et pour ce qui n'est pas lui. Jamais, jamais, jamais. Les événements sont. Mais il n'y a pas d'acteur de l'événement. On ne peut pas le voir. C'est le karma individuel. Mais l'œil n'est jamais ouvert dessus. Les choses s'imposent. Vous avez tous vécu, vous avez tous manœuvré la vie comme vous avez pu, au mieux du que vous avez pu, mais toujours en fonction de ce qui survient, de ce qui s'impose, et vous, on navigue comme ça, à vue, parce que tout apparaît sans arrêt. C'est comme ça. Il n'y a pas de méchanceté là-dedans, c'est comme ça. Aussi, donc une fois qu'il a dit que l'intégralité du monde des phénomènes repose sur les lois de cause-condition, en montrant l'aspect des effets donc, et de la rétribution, il dit que ce principe réside dans la présence mutuelle des dix mondes, dont la substance inconcevable est la fusion de la vacuité, de la conditionnalité et de la voie médiane. Ça signifie donc que tout ce qui apparaît en tant qu'effet apparaît nécessairement en tant que les dix mondes, donc les dix états dans les dix états, donc en termes de qualité. On ne parle plus de la mécanique qui fait que tout apparaît en termes d'effet, on parle de la qualité même qui est vécue à chaque instant par les êtres. Donc forcément, c'est les dix mondes dans les dix mondes, c'est-à-dire que tout ce qui est, à travers un aspect physique, montre un état dominant, nous c'est l'état de tranquillité. Mais qu'en même temps, tout cela repose sur ce principe inconcevable qui est la fusion du conditionnel, de la vacuité et du médian. Ça signifie que, bien que tous nous pensons avoir une vie qui est faite par les circonstances, le conditionnel, en réalité cette vie est assise, est issue de la vacuité, donc d'une infinité de possibles, et en tant que telle, elle est absolument inconditionnelle. Vu par le Bouddha, chaque forme, chaque dharma, est absolument inconditionnel, c'est-à-dire absolu, c'est-à-dire jamais fabriqué par des choses qui lui sont étrangères. Jamais, 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 selon le Bouddha, la vie que vous avez, que nous avons, est faite par les circonstances. Pourquoi ? Parce que le monde environnemental, votre corps et vous-même, ce n'est qu'un, et ce un est absolu, sans commencement ni fin. Donc, après avoir dit au début qu'il y avait les causes-conditions qui n'étaient qu'une seule chose, et que l'effet apparaît tout le temps en termes de rétribution des actes depuis l'infinité, en une manière de voir, eh bien, le Bouddha dit qu'en fait, le karma et les conditions qui sont une seule chose, sont également une seule chose avec l'environnement. L'environnement, c'est les conditions. Eh bien, ce un en question qui vit des états, est absolument non produit par les circonstances. Donc jamais, 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 la vie est faite par ceci, par cela, ou à cause de ceci, ou à cause de cela. Ce qui signifie également que, dans le monde des six voies, jamais, 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 quelqu'un intervient sur quelqu'un d'autre. Jamais quelqu'un meurt à cause de la guerre. Jamais quelqu'un est blessé à cause d'un accident de voiture. Ça n'existe pas. L'individu est toujours porteur de son vouloir être inconscient, il le découvre en tant qu'effet, c'est ce qu'on appelle le karma, ça s'impose. Mais toujours, sa vie, c'est ça. Quel que soit le monde et l'endroit où il est situé, toujours il porte avec lui ses conditions, et toujours il montrera l'aspect absolu de sa vie, c'est-à-dire complètement inconditionné. Aucun phénomène n'est conditionné par quelque chose d'autre. Il n'est que sa propre causalité personnelle, à savoir que il apparaîtra toujours en termes d'effet. C'est pour ça que le grand patriarche dit que les saints ont ouvert la vie qu'ils subissaient depuis le passé infini. L'existence est subie.
Tant qu'on produit tout.
Pardon ?
On produit tout.
Par le bouddhisme, non. C'est comme ça. La vie est subie. C'est que une vie à être avec trois enfants et les perdre à cause de massacres dans la population, dans le coin, ou être malade, comme ça, toujours, tu inventeras ces conditions qui apparaîtront comme extérieures à toi. C'est toujours ta réalité que tu vivras tout le temps. Immuablement. Ne me demandez pas pourquoi il y en a qui sont des chevaux et l'autre, et d'autres des concierges. Nous, ce qu'on voit des phénomènes, c'est rien. En termes de qualité d'être. Nous, on porte des jugements, on dit, préfère être concierge que kangourou. Mais les jugements qu'on porte sur les phénomènes, c'est juste humain, c'est rien du tout, ça ne voit pas ce que c'est. Donc, l'idée, c'est que les phénomènes sont absolument inconditionnés, immuables. En termes d'état. En père, habilité, animalité, colère, joie. Donc, le Bouddha originel dit à ce propos que même les neuf mondes sont présents dans le monde du Bouddha sans commencement, et même le monde du Bouddha existe dans les neuf mondes sans commencement. C'est comme ça. Toujours, chaque phénomène montre, à travers son aspect, un état, et au sein de cet état, il a 10 états, et l'évolution même du phénomène, l'évolution possible, est également au sein des 10 états à travers le changement de forme. Au fil des successions événementielles. Donc ça c'est la base sur laquelle on essaie de travailler. On va affiner le propos dans les minutes qui viennent. Je suis le texte là. Donc il dit, en outre, l'ensemble des multiples phénomènes du monde des dharmas, comprenant ses vérités, se divise en loi de la matière et en loi du cœur. Hein, nous, en tant qu'humains, on distinguera la loi de la matière, le corps, et l'esprit, comme deux choses distinctes. Et donc il dit, ainsi, les animaux, les végétaux, les montagnes, les rivières, la terre, les innombrables étoiles, les planètes, tous les corps célestes, montre l'aspect de l'alliance et de la rupture, de la naissance et de la mort, de la séparation et de l'harmonie des 5 éléments que sont la terre, l'eau, le feu, le vent et l'espace. Donc le bouddhisme dit que ces 5 éléments, tels quels, constituent les existences des 2 lois de la matière et de l'esprit. Nous sommes composés de 2/3 de flotte, ce qui fait donc 66%. Nous sommes composés de minéraux, de sel, de zinc, de cuivre, de fer, de toutes sortes de choses qui composent le corps humain. Et toutes ces choses sont dans un flux constant qui, lorsque c'est harmonieux, on tient la route. Quand c'est disharmonieux, on tombe malade. Et puis malgré tout, on vieillit, ça change, ça se modifie. Donc ce flux de flotte et de terre et de chaleur qui compose tout ce qui est, c'est quelque chose de provisoire qui naît et qui meurt à chaque instant. Donc il parle bien effectivement que du fait que tout ce que l'on perçoit dans le monde est composé de ces éléments, et que du fait de l'alliance ou de la rupture entre eux, ou de la naissance et de la mort de certains et d'autres, de la séparation et de l'harmonie, tout ça, ça constitue le monde et notre existence, et c'est là que nous on va voir les 2 lois du corps et de l'esprit, alors qu'en fait ce sont les 5 éléments sur l'eau, la terre, le feu, le vent, qui sont ce dont provient cette image qu'on a. Hein? Pour relativiser le sentiment d'un moi perdurant. En fait, c'est quelque chose qui éclot en termes de ressenti au sein d'un maelstrom de choses qui naissent et meurent et changent tout le temps. Ce qu'on appellera mon moi à moi que j'ai depuis le début que je suis né. Hein? C'est un truc qui est en fait toujours une conscience de quelque chose qui est toujours le passé du vrai, le passé de la réalité, et qui est en fait l'harmonie relative de l'eau, de la terre, du feu, du vent. D'où la statue équestre. Tout le monde est content. C'est une marque d'une histoire. Donc on trouvera, chez les présocratiques, Anaximandre qui dit, c'est de l'illimité que sont issues toutes choses qui naissent, et c'est à lui que retournent toutes choses qui se corrompent. Parfait. Rien à rajouter. On trouvera Empédocle qui dit, les éléments, donc la terre, l'eau, le feu, machin, les éléments sont inengendrés, permanents, constants. Il dit, plutôt, tantôt de par l'amour, ensemble, ils constituent une unique ordonnance, et tantôt chacun d'eux se trouve séparé par la haine ennemie. C'est ce que disait le grand triangle. Cet assemblage, provisoire momentané des 5 éléments, par la haine ou par l'amour, sont attachés ou disloqués. C'est ça, c'est ce que disait le patron. On trouvera également, toujours en pédocle, c'est à partir de ces éléments que toutes choses sont formées et ajustées. Et ce sont eux aussi qui forment la conscience, le plaisir et la douleur. Conscience, plaisir ou douleur, ce sont des sentiments en termes d'état qui ne naissent que de l'eau, de la terre, du feu, du vent, de l'espace. Et quand il dit que c'est ainsi que toutes choses sont formées et ajustées, ajustées les unes par rapport aux autres, ça signifie que dans le monde des phénomènes, comme tout phénomène est absolu, ne peut ni apparaître ni disparaître, l'ensemble de ces phénomènes sont en appui les uns sur les autres, sans que jamais l'un influence l'autre, mais étant en appui les uns sur les autres, ça autorise chaque phénomène à vivre ce vers quoi il tend. Et donc, la guerre, la famine, l'accident de voiture, l'accident d'avion, la maladie, les virus, tout ce que vous voulez, tout cela, c'est l'harmonie globale des phénomènes les uns en appui sur les autres, qui permettent à chaque phénomène de réaliser ce vers quoi il est poussé. Mais personne n'est méchant, personne n'est cause de quoi que ce soit, pour lui. Vous voyez? Contrairement à ce que nous, on voit. Hein, si vous allez en Chine, vous chopez le machin du poulet, vous allez revenir en disant, j'ai reçu, j'aurais pas venu. Si vous me dites, parce que je suis là-bas, j'ai eu ça. En réalité, c'est faux. Ce qui est propre à chacun, il le trouve toujours, parce que l'environnement n'est pas duel, n'est pas deux avec lui. C'est qu'une chose. Être l'environnement et Shokuni, c'est un. Corps-esprit, c'est un. Toujours, dès le début. Donc, voilà. Aussi, pour continuer dans cette idée, dans le chapitre Oben, Nuzesso Shotai, on traite donc ainsi est l'aspect, ainsi est la nature, ainsi est la substance, so, sho et tai. Donc la nature, enfin l'aspect c'est la forme, et la nature c'est le cœur. La substance quant à elle, donc nous étaille, désigne la substance des deux lois, forme, matière et esprit. Autrement dit, quand on dit Nyozesso, Nyozesho, Nyozetaille, Nyozesso, c'est ce qu'on voit, c'est le corps. Nyozesho, c'est ce qu'on ressent, c'est le caractère, c'est la nature de la personne. J'aime, j'aime pas, bleu, jaune. Et Nyozetaille, qui est la corporéité, ce n'est pas vu. Parce que le corps et l'esprit naissent de lui à chaque instant. Donc, on peut considérer que Nyozetaille est toujours en fusion globale avec l'infinité phénoménale dans l'instant. Donc, Nyozetaille est permanent, il est toujours en fusion totale avec l'infinité des phénomènes, qui ne forment qu'un seul corps infini, qu'on appelle le corps de la loi, aussi, d'un autre côté. Autrement dit, quel que soit, c'est le compatriarche qui dit, l'existence du corps et de l'esprit transcende toutes les transformations dues au temps et toutes les vicissitudes. Elle est infinie et éternelle. On dit Nyozetaille existe toujours, en tant que fusion complète avec tous les phénomènes, mais de cette fusion complète naissent à chaque instant, hein, 64 fois en claquement de doigts, à chaque instant, sont ce que nous on va nommer le corps et l'esprit. Et donc le corps et l'esprit ne peuvent ni apparaître, ni disparaître, jamais. Nous, on verra le contraire en tant qu'humain, on verra la personne se dégrader, mourir, ou n'importe quoi, un accident, en réalité, il n'est pas. On ne peut pas échapper à l'existence, elle s'impose. Exister n'est pas dû au courage, n'est pas dû à la volonté, n'est pas dû à un choix, n'est pas dû à un effort. Exister s'impose tout le temps. Il n'y a pas de possibilité de s'extraire du fait d'exister parce que notre vie est effet tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, dans l'enseignement provisoire, chapitre Oben du Lotus, Shakyamuni étant éveillé, va indiquer que l'intégralité des phénomènes sont son propre corps. En disant nous et sauts, nous et chauds, nous et tailles, il va indiquer que, spatialement, l'infinité phénoménale est de même nature que son corps, c'est son corps. Comme le corps de chacun d'entre nous, du reste, hein, bien sûr. Et dans le chapitre Juryo, il va creuser encore plus, il va indiquer que sa présence est permanente du point de vue temporel. Donc il va dire que du point de vue spatial, sa présence s'étend à tout. Et dans le journal, il dira que au niveau du temps, sa présence est immuable, permanente au niveau temporel. Ce sont les deux grandes choses qui sont issues du chapitre Joriot et du chapitre Oben. Et sous-entendu, comme le Bouddha n'est pas quelque chose d'extérieur au monde et qu'il est comme tout ce qui est, évidemment, tous les phénomènes sont pareils. Tout phénomène s'étend à tout dans l'espace, et tout phénomène est permanent dans le temps. D'accord? Nous aussi. Donc, c'est ce à quoi le Bouddha s'est éveillé. Donc, le grand patriarche dit, les sciences modernes expliquent la formation de la Terre et l'apparition des êtres vivants dans un processus limité. S'agissant là de connaissances de l'humanité développées dans le cadre scientifique, je suis toujours prêt à les considérer de manière positive. Toutefois, si l'on prend uniquement ces connaissances scientifiques comme critère pour tout, on tombe alors dans l'attachement à la cognition scientifique, qui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, renferme une grande quantité de domaines non encore définis et donc incertains. Et si, pour ces raisons d'attachement à la lecture objective, entre guillemets, scientifique, si pour ces raisons, on nie, on refuse d'admettre l'envergure de l'enseignement du Bouddha pour ce qui concerne le temps et l'espace, qui dépasse de loin le cadre des scientifiques qui observent avec leur bêtise usuelle les choses, il y a à ce moment-là, le fait de douter de ce que dit le Bouddha devient une entrave à la vision claire de la vie et du véritable aspect de notre existence, et également, dit-il, c'est une entrave à l'obtention de la véritable paix spirituelle dépendant des œuvres et vertus de la foi. Attention. Il dit que ça fait une entrave à la paix spirituelle qui dépend des œuvres et vertus de la foi. C'est ce qu'il vient de dire. Alors, qu'en est-il? Donc on va affiner un peu. On vient de dire que dans le monde des êtres, dans le monde des six voies, nul ne peut échapper au fait d'exister, c'est comme ça, ça s'impose. Bon. On découvre. Alors, si j'avais dit, j'aurais pas rien vu, c'est comme ça. Par contre, maintenant, on parle du monde du Bouddha. Il est dit par Nichiren Shonin. Lorsqu'on croit au Hanzon en son cœur, le Hanzon teinte notre cœur. S'opère alors la merveille de la cause originelle. Attention, le mot cause a été prononcé. On vient de parler de la cause. Je répète. Lorsque l'on croit au Hanzon, le Hanzon teinte le cœur. S'opère alors la merveille de la cause originelle. Le coup, on commence à comprendre que si, à un moment de notre vie, on peut parler de cause, c'est le fait de croire au Hanzon, le Hanzon teinte notre cœur. À ce moment-là, est-il dit, il s'agit de la merveille de la cause originelle. Quelle merveille s'agit-il? C'est la merveille suivante, c'est-à-dire que dans le monde des êtres humains ordinaires, donc des neuf mondes, le Bouddha surgit. Donc c'est le surgissement de la croyance dans les objets que le Bouddha désigne que l'on peut appeler cause en ce qui nous concerne, en ce qui concerne notre possibilité de sortir du monde des six voies. Le fait de croire, donc de ne pas rejeter les objets que le Bouddha montre en tant que concept, le fait de ne pas rejeter et de garder, c'est le moment où il y a en nous, dans les neuf mondes, quelque chose comme le Bouddha. C'est la merveille de la cause originelle. Ensuite, lorsque, avec la bouche, nous récitons la loi merveilleuse, le Hanzon teinte notre corps, parce que la récitation est physique. À ce moment-là, c'est la merveille de l'effet originel des neuf mondes, où les neuf mondes sont identiques au monde du Bouddha. Donc, je répète. Lorsque l'on croit, le Bouddha entre dans les neuf mondes. Lorsque l'on récite, qui est l'effet, donc réciter est un effet, c'est pas une cause. Donc, quand je pratique le matin et le soir, c'est parce que je crois. Si on cherche la cause, c'est dans le fait que je ne peux pas remettre en cause le bouddhisme, que je ne rejette pas les concepts que le Bouddha enseigne. Ne rejetant pas, on peut considérer que la foi est la cause. Mais la foi, c'est quoi la foi? C'est pas un acte, la foi. C'est une disposition favorable vis-à-vis d'eux. C'est une écoute qui ne rejette pas. C'est une écoute qui garde et qui va employer. Donc s'il y a quelque part le terme de cause originelle en nous, c'est ça. Le fait de ne pas rejeter, de garder l'objet qu'on ne comprend pas. Gardant l'objet, on récite. Quand on récite, c'est la merveille de l'effet originel. C'est clair, c'est dans le numéro 44, page 2. Pour ceux qui veulent lire. Bon, voilà. Croire fait que le Bouddha ne croit pas. Le Bouddha, il voit. En plus, il n'a pas d'objet de croyance, le Bouddha. Il voit, donc il est éveillé, il voit les choses. Nous, quand on ouvre les yeux, on ne voit rien. On voit que le monde des humains, c'est tout. Puisque le Bouddha voit comme objet, il le voit. Mais nous, la seule opportunité qu'on ait de prendre cet objet, c'est de croire. Ce que pour nous, croire va équivaloir à voir. On dit le bouddhisme, c'est la voie de la vue. Hein? Donc le fait de ne pas rejeter, de garder l'objet que le Bouddha désigne, donc en l'occurrence le onzon, fait que c'est comme si on voyait l'objet. Nous on croit, lui il voit, mais croire permettra de voir. Et de fait, au fur et à mesure qu'on pratique, eh bien effectivement, des objets qu'on ne voyait pas, et qu'on gardait quand même, se dessinent, prennent corps, deviennent notre corps. D'accord? Donc si l'on veut chercher en nous ce qu'il y a comme cause, c'est le fait de croire. La pratique étant un effet. C'est dit, c'est expliqué. Donc, Nichiren dit, la foi étant à l'origine de la récitation du Daimoku, elle est la merveille de la cause originelle. La récitation étant la conclusion de la foi, elle est la merveille de l'effet originel. Autrement dit, ce phénomène est la causalité de notre une pensée, dont l'origine et la conclusion sont instantanées. Mais hormis cette cause, cette merveille de la cause originelle, qui est le fait d'entendre et de ne pas jeter, donc de garder, hormis cela, toute notre vie n'est que effet. C'est grâce à cette issue qui émane de la bienveillance du Bouddha originel, que sans lui, on n'aurait pas commencé à pratiquer le Daimoku, on n'aurait pas construit un onzon pour être devant, et on n'aurait pas resté Gongyo matin et soir. Donc tout cela, c'est sa bienveillance à lui en termes d'état de vie, en termes de... Et qu'il nous laisse son état de vie en tant que Myrolan Gekyo, et l'infinité phénoménale et son état de vie en tant que Ronzon, mais encore faut-il ne pas passer à côté et s'y arrêter. Donc s'il y a quelque part en nous une once de cause, c'est le fait de ne pas rejeter l'objet. La pratique étant l'effet de cette cause. C'est le seul endroit où le terme de cause peut être utilisé pour nous. Pour tout ce qui est du reste, donc on verra que la cause, c'est juste un phénomène mental. Croire, c'est mental. Donc pour tout ce qui n'est pas le fait de croire, il n'y a pas de cause et d'effet. Enfin, il n'y a que des effets, si on préfère, dont on ne peut pas mesurer.
Mais on a quand même la volonté de croire.
Non, je pense pas. Je pense pas. Si vous voulez, pensez comme ça. Ça vous gênera pas longtemps. Mais, à mon avis, c'est pas juste. En fait, on croit parce que, à mes yeux, on croit parce que on peut pas faire autrement. Donc, plutôt, ça apparaît comme un effet. Mon sentiment personnel. Parce qu'encore une fois, dire que la vie est permanente, c'est induire une durée. Or, on verra sur la fin du cours qu'il n'y a pas, il n'y a pas de durée. Donc, en fait, on croit parce que on a été amené dans une situation où on n'a pas pu ne pas le faire. Tous les matins, tous les soirs, c'est ça. On ne peut pas ne pas le faire parce que on sent qu'on n'a pas autre chose de plus grand à placer dans notre vie. Donc, on fait parce que c'est... Ça s'impose, parce que
Le début, quand on a commencé à pratiquer, c'est parce qu'on était dans une attente de quelque chose.
Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas rejeté. Mais cette attente n'est pas une cause, c'est un effet seulement.
On espérait qu'on allait mieux, être mieux.
Oui, donc tu attendais quelque chose. Tu ne peux pas le nommer. Oui. Tu attendais sans savoir ce que tu voulais, en fait, quelque part. Tu attends. Puis à un moment, tu prends, c'est ça. Ouais. On peut dire que c'est une cause, mais c'est plutôt un effet, moi, je trouve. Il y a des gens, juste, ils entendent le Daimoku, ils fuient. c'est pas une cause. C'est parce qu'ils supportent pas. Pourquoi ils supportent pas? C'est en eux, au fin fond, je ne sais où. Ils ne supportent pas. Oui, des gens disent, ah, tiens, ça m'intéresse. C'est pas une cause. Ils peuvent pas faire autrement que. Mais si on veut dire cause, pourquoi pas? Ça gêne pas, mais c'est pas tout à fait exact. Si on affine, si on affine, mieux vaut penser, à mon avis, que tout le temps, on n'a jamais pu être autre que entraîner les êtres dans l'éveil par notre pratique personnelle. On n'a jamais été autrement que ça. On est toujours emmené à travers les mondes pour commencer à pratiquer, rencontrer la loi, commencer à pratiquer et entraîner une infinité d'êtres avec nous dans l'éveil. C'est plutôt ça qu'il faut, ce à quoi il faut s'éveiller. Rien n'a d'origine. Si on veut considérer que le fait de commencer à pratiquer c'est une cause, pourquoi pas? Si vous voulez, faites-le. Mais, à mon avis, c'est d'une imprécision telle que ça peut poser à un moment des problèmes de logique, enfin, c'est à vous de voir. Après tout, c'est pas mon truc que de vous faire admettre quelque chose d'autre. Donc, ouais. Toujours, durée de la vie longue et étendue. Dans Shakyamuni, il dit, réunissez 3000 grands mille mondes et mettez-les en poussière. C'est une somme de poussière. Et il dit, vous prenez toutes les valises de poussière, vous marchez 500 000 mondes, vous mettez une poussière. Vous marchez encore 500 000 mondes, vous remettez une poussière. Et ainsi de suite. Et après, combien il y a de monde en tout? Aussi bien ceux où il y a eu une poussière et ceux où il n'y en a pas eu. Et tout le monde dit, on ne peut pas compter. Chacun dit, ok. Et maintenant, réunissez tous ces mondes, aussi bien ceux sur lesquels il y a une poussière que ceux où il n'y en a pas eu. Vous les réunissez tous, vous les broyez. Ça fait un lot de poussière. Chaque poussière fait un néon. Eh bien, la durée de ma vie est encore supérieure à ce chiffre incalculable. Ça pour indiquer que on ne peut plus mesurer cette infinité dans le passé, ni en fait, ni dans le temps, ni dans l'espace. Et il dit donc, la pérennité longue et étendue du monde du Bouddha, et par extension des neuf mondes, c'est-à-dire que les neuf mondes aussi ont une pérennité longue et étendue, hein, c'est la même chose, est inhérente aux vicissitudes de ce monde, sujet à toutes sortes de variations dues au temps, et en même temps les transcende. C'est-à-dire que les neuf mondes, comme le monde du Bouddha, surtout les neuf mondes, seront toujours existants en termes de passage de temps, en même temps que ça les transcendra. Au sein des neuf mondes, il y aura toujours les vicissitudes et le passage du temps et les conditions, mais en même temps, ça les transcendra parce que, du fait, rien n'est dans le temps et rien n'est fait par les conditions. Et humainement, c'est ce qu'on verra. Tout le temps. Mais c'est fait. Donc c'est à cela qu'il faut s'éveiller. Donc, il indique que le corps du Bouddha, qui est expliqué dans le chapitre « Durée de la vie », transcende toutes ces notions et possède un caractère, une immensité infinie. Pour cette raison, on ne peut pénétrer dans ce monde uniquement que par le mot de foi. Ce n'est que la foi. Dans le bouddhisme, on dira toujours « Veuillez croire et comprendre ». Jamais on ne dira « Veuillez comprendre et croire ». Parce que ça n'existe pas. On est beaucoup trop con pour comprendre le monde du Bouddha. Donc c'est la croyance qui va précéder la compréhension. Hein? On dira toujours « Vous devez croire et comprendre les paroles sincères de l'ainsi venant ». Toujours, c'est l'acceptation de l'objet qui va entraîner la compréhension. Alors que le fait de ne pas le croire, de ne pas le garder en soi, interdit la compréhension. Ce n'est pas quelque chose qui relève de la réflexion. Pourquoi? Parce que la réflexion, ce n'est qu'un effet. Elle n'a pas d'arme pour agir. Ni le sentiment, ni la réflexion, ni la raison, ni la logique ne sont des armes, parce que ce ne sont toujours que des effets incontrôlables.